Et voici venu le moment de la conférence de Louis Pernaud. Louis Pernaud, vous êtes pasteur, évidemment, vous êtes théologien, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes luthiste aussi, spécialiste du baroque, vous êtes beaucoup de choses, vous êtes très impressionnant en fait. Et vous êtes pasteur au Temple de l'Étoile, ce qui est aussi un exploit depuis 35 ans maintenant. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous retrouverons ces ouvrages à la librairie éphémère que nous remercions beaucoup d'être avec nous pour ce cycle de culte conférence. J'ai noté que vous aviez écrit Un christianisme pour le 21e siècle. Vous avez contribué à un ouvrage dont le titre nous intéresse beaucoup pour ce cycle, qui est « La religion peut-elle rendre heureux ?» Alors, ce n'est pas à ça que vous allez répondre aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi une forme de la réponse de à quoi servent les religions. Vous êtes connu comme un homme de conviction, mais aussi de dialogue, de nuance. Et c'est donc ce thème de à quoi servent les religions, à nous endormir ou à nous réveiller, que vous avez choisi de partager avec nous. Je vous en remercie à nouveau.
Merci beaucoup. Vous dites que j'ai choisi de parler là-dessus. Non, je n'ai pas choisi, c'est vous qui me l'avez imposé. Donc, je me soumets à ce qu'on m'a demandé. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Et en même temps, c'est la première fois que je prêche sans robe. Bon, on m'a dit qu'il ne fallait pas en mettre. Donc, une fois de plus, je me soumets aux usages locaux. Mais ça me donne surtout une grande liberté de ne pas être obligé de prêcher. Donc, je pourrais être plus impertinent que je ne le serais sinon. Et donc, vous m'avez dit à quoi servent les religions à endormir ou à réveiller. C'est un piège que vous m'avez tendu parce que, bien sûr, nous pensons tous que les religions sont faites pour réveiller. Sauf s'il y a quelques vieux marxistes qui traînent ici en disant « la religion, c'est l'opium du peuple, elle est là pour endormir les gens qui ne se révoltent pas et pour les garder dans une forme de soumission ». Mais non, évidemment, donc... Ma réponse, elle est faite et je peux m'en aller. La religion, elle est faite pour réveiller. Mais en même temps, cette question, c'est pour ça que j'ai insisté pour dire que ce n'est pas moi qui l'avais choisie, cette question est, à mon avis, tout à fait malhonnête et orientée en amont. Parce que vous me dites à quoi servent les religions et vous ne me laissez le choix qu'entre deux réponses, soit endormir, soit réveiller. Mais en fait, on aurait pu trouver plein d'autres réponses. Soit négative d'abord. Vous auriez pu dire à quoi servent les religions ? Eh ben merci, ça sert à faire des guerres de religion, à faire des massacres, ça sert à exclure, à culpabiliser ou à infantiliser. Enfin, on pourrait tout à fait trouver que les religions servent à des tas de choses mauvaises. Ou on aurait pu trouver d'autres choses très positives. La religion, ça sert à apprendre à aimer. J'aurais préféré ça, tiens, plutôt. Ou à quoi sert la religion, à quoi servent nos temples? Ça sert à rappeler à chacun la grâce, que la grâce nous est faite, apprendre à chacun à mieux connaître l'évangile. C'est le cas des enfants qui sont partis tout à l'heure au catéchisme ou autre. Et donc finalement vous m'amenez une question en fin de course en me laissant peu de choix dans réponse, et même en amont j'aurais voulu poser encore d'autres questions plutôt que de dire à quoi sert une religion. J'aurais aimé peut-être qu'on s'intéresse, pas simplement dire à quoi elle sert, mais à ce que c'est, c'est-à-dire la nature profonde d'une religion. C'est quoi une religion, finalement? Quelle est son importance? Et quel lien il y a entre la religion, c'est-à-dire la pratique, l'organisation, et quel rapport il y a par rapport à ce qu'il y a de plus essentiel, qui est la foi, la pureté de l'évangile, l'engagement, la relation à Dieu? Donc oui, une religion, c'est quelque chose, je le reconnais, quelle que soit sa nature, d'extrêmement puissant. Oui, c'est vrai, ça peut faire beaucoup de mal, et je pense que ça peut faire aussi beaucoup de bien. Mais finalement, dans la façon de poser la question, la façon avec laquelle vous avez posé la question, vous donnez déjà une forme de réponse sur la manière avec laquelle vous considérez la religion. Quand vous dites « à quoi sert ?» une religion, c'est que en fait, vous avez dès le départ l'idée qu'une religion, ça doit servir à quelque chose. Et si ça sert, c'est que vous avez une vision utilitariste de la religion, ce qui ne va pas de soi, mais ce qui me plaît beaucoup en bon protestant. Donc en fait, c'est une question fondamentalement protestante. À quoi sert la religion ? Ça veut dire la religion, c'est un outil. Si ça sert plus, on peut le jeter, on peut en changer, on peut en modifier. Enfin, un outil n'est pas le but de son action. Un outil, c'est quelque chose, un intermédiaire par rapport à quelque chose de plus important. Et pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que ça montre justement que pour vous, tel que vous posez la question, la religion n'est pas divine. La religion n'est pas un idéal, la religion n'est pas un but, la religion n'a pas une valeur en soi, mais c'est un instrument pour autre chose. La religion, elle est là pour servir à quelque chose de plus grand qu'elle. Et je vous ai dit, c'est une vision fondamentalement protestante qui me convient très bien. L'Église n'est pas un idéal, l'Église n'est pas un but. L'idéal et le but, c'est la relation au Christ, c'est la foi, c'est l'engagement. Et dire « l'Église doit me servir », c'est protestant. Un bon catholique aurait dit « le chrétien doit servir l'Église ». Et d'ailleurs, tiens, plutôt que de ne taper sur les catholiques, tapons sur les protestants. Mon Église, qui est aussi la vôtre, mon cher ami, prétend que je suis un ministre de l'Église. Ministre, ça veut dire serviteur. Donc on me met comme titre, je suis serviteur de l'Église. Je récuse ce titre. Du temps de la Réforme, les pasteurs n'étaient pas des ministres de l'Église, ils étaient des ministres du Saint-Évangile. C'est pas pareil. Et si j'ai donné ma vie, c'est pas pour l'Église protestante unie, pardon s'il y a des responsables ici de cette noble institution, je ne donne pas ma vie pour l'Église, je donne ma vie pour le Christ, au moyen de l'Église. Donc vous voyez, tout ça est extrêmement important. Et déjà, quand on parle de l'Église qui sert, on dit énormément de choses et pratiquement, j'ai dit tout ce que je pense là-dedans, dans l'Église. Et ensuite, donc, la religion est seconde, elle sert, donc elle doit s'effacer, elle doit faire preuve d'humilité. Et là-dedans, vous ne me proposez donc que deux hypothèses là que je vais étudier. Est-ce qu'elle est là pour endormir ou réveiller, puisque j'ai le choix entre deux solutions pour aujourd'hui. La réponse, je vous l'ai dit déjà, oui, bien sûr, elle est là pour réveiller, mais comme j'ai l'esprit tordu, je vous défendrai tout à l'heure le contraire, et que, en fait, vous ne l'imaginez peut-être pas, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de dire que l'Église, elle est plus là pour endormir que pour réveiller. Je vais essayer de vous le démontrer tout à l'heure, mais pour l'instant, oui, d'accord, vous avez raison, bien sûr, l'Église, elle est là pour réveiller. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est au service de notre foi, et notre foi a toujours tendance à s'assoupir, nous avons tendance à nous endormir, et la pratique religieuse, donc par le moyen de l'Église, consiste à nous rappeler vigoureusement que Dieu existe, consiste à nous rappeler vigoureusement, dimanche après dimanche, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut pardonner, qu'il faut servir, parce que nous avons tendance à l'oublier et nous avons tous tendance à nous endormir. Donc oui, l'Église doit raviver l'enthousiasme de la foi, le désir de servir, doit raviver la volonté de chercher Dieu et d'avoir une sorte de discipline spirituelle et de courir finalement comme un athlète de la foi que nous devons être, ainsi que le dit Paul. Alors Paul lui-même, bien sûr, est l'apôtre du réveil. Quand il dit en Éphésiens 5, « Réveille-toi, toi qui dors !» Oui, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Réveille-toi. Oui, le réveil, c'est un mot important et c'est même encore beaucoup plus important que peut-être vous ne l'imaginez, mais peut-être que vous le savez, c'est que le mot « réveil » c'est le mot qui, dans le Nouveau Testament, désigne la résurrection. Voilà. Le mot résurrection n'existe pas, en fait, dans le grec du Nouveau Testament. C'est soit la relevée, soit le réveil. Il est réveillé des morts. Et donc, le réveil, c'est la résurrection. On l'entend aussi dans l'histoire de Lazare. Vous savez, quand Lazare, l'ami de Jésus, est mort, et on dit « Lazare dort ». Et il pensait qu'il dormait, mais non, il est mort. Et donc le réveil, c'est la résurrection, et se réveiller, c'est passer de la mort à la vie. Donc si l'Église peut m'aider de passer de la mort à la vie, oui, je suis d'accord, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Et puis, se réveiller, c'est, oui, c'est essentiel, d'une façon plus profonde, pas simplement me retrouver un peu d'énergie dans ma foi. Être réveillé, c'est devenir le sujet de sa vie, c'est-à-dire être capable de décider, de comprendre, de choisir, d'agir. Et en fait, tout ce qui me permet de redevenir sujet de ma vie, autonome, libre, c'est absolument essentiel. Et dire que l'Église est là pour me permettre de redevenir sujet de ma propre vie, ça aussi c'est très protestant, puisque on pourrait dire, ben non, vous n'avez pas besoin de décider, c'est l'Église qui décide pour vous, donc obéissez à ce que dit l'Église et vous n'avez absolument pas besoin d'avoir des idées vous-même. Mais si, l'Église me réveille et me met sujet de ma propre existence et me rend libre et responsable. C'est vrai que le contraire d'être réveillé, ce serait d'être endormi. Donc ça consisterait à déresponsabiliser, à rendre passif. Mais l'Église, elle n'est pas là simplement pour endormir, pour conforter, pour rassurer, mais elle est là pour aiguillonner, pour provoquer. Et d'ailleurs, toujours dans l'Évangile, il est question d'être en marche, d'être en mouvement. Tout le peuple, toute la Bible, il est question de marcher. Le peuple dans le désert sort de l'Égypte. C'est de l'endormissement, ça ? Non, ils se réveillent, ils se mettent debout, ils traversent la mer Rouge, ils marchent 50 ans dans le désert, ils se bataillent contre les Philistins, contre les uns, contre les autres. Le peuple hébreu est sans arrêt un peuple en marche, en avant, en combat, en bataille, en difficulté, autrement dit. Et dans l'Évangile aussi, est-ce qu'il s'agit de rester paisiblement assis sur le bord de la plage à bronzer ? Non, on marche sur l'eau. On marche dans le désert, on marche sur l'eau. Et toujours dans l'Évangile, il est question d'avancer, d'être en route, de marcher. Et à moins d'être somnambule, pour marcher, ben, faut être réveillé, voilà. Et donc, il est dangereux de s'endormir. Jésus lui-même le dit, mais à plusieurs reprises, « Veillez et priez ». Il ne dit pas « Dormez, mes lapins, tout va bien, je m'occupe de tout ».« Veillez et priez ». Et donc, soyez réveillés. Et d'ailleurs, si vous lisez la prédication du Christ, oui, faites-le, tiens, est-ce que vous l'avez tous fait ? Est-ce que vous avez tous lu les quatre évangiles intégralement ? C'est très bien de lire les Béatitudes, la parabole du semeur et tout ça. Lisez tout l'évangile. Et quand je fais faire cet exercice à par exemple, des couples que je prépare au mariage, ils sont en général très surpris parce qu'ils disent « Tiens, c'est étonnant, parce qu'ils avaient une idée d'un Jésus très doux. Soyez gentils, pardonnez-vous, peace and love, mes frères, etc. » Mais non, quand on lit l'Évangile, on voit un Jésus qui est provocateur, qui rentre dedans, qui est parfois même désagréable. Enfin, le Jésus de l'Évangile, le vrai Jésus de l'Évangile, n'est pas du tout un Jésus doux et un Jésus gentil, un Jésus qui nous endort dans quoi que ce soit. La prédication du Christ n'est pas du tout lénifiante, elle est provocatrice. Elle ne laisse pas en repos, elle nous met face à des contradictions, face à des idéaux inapplicables, elle nous met devant des commandements qui sont trop, qui vont au-delà de ce que nous pouvons, qui sont excessifs, il nous présente des questions dérangeantes. Et donc l'Évangile est en fait une question permanente, un dérangement permanent. Et j'aime cela. Si vous êtes d'accord avec tout ce que Jésus a dit dans l'Évangile, c'est que vous ne l'avez pas lu, ou vous êtes alors là encore plus endormi que je pourrais le craindre. Vous êtes d'accord avec tout ? Ah oui, bravo. Quand Jésus dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi », vous l'avez fait ? Vous commencez quand ? Demain, tout de suite ? Voilà, ben, vous ne l'avez pas fait. Et ben voilà, donc vous n'obéissez pas à l'Évangile. Ça veut dire que tout ce que Jésus dit, c'est du dérangement. C'est pour nous aiguillonner. Et l'Évangile nous fait vivre parce que justement, il nous empêche de nous endormir dans notre bonne conscience, dans nos bonnes convictions, dans notre bonne pratique, dans notre bonne morale et dans le fait d'être content de nous. Je vous raconte une histoire. J'avais une paroissienne quand j'étais jeune qui avait des difficultés dans sa vie, d'ordre en partie psychologique, et qui m'avait approché pour que je puisse l'aider à aller mieux. J'ai essayé, mais j'étais jeune pasteur, je ne savais pas trop faire, et je lui ai dit, vous savez, la prière, ça marche, mais enfin bon, ça ne guérit pas tout, enfin bref, je ne savais pas trop faire. Du coup, elle est allée voir un autre pasteur, que je ne nommerai pas, il n'a jamais été pasteur ici, hein, je vous rassure, et elle va le voir en se disant, mon jeune pasteur n'a pas su m'aider, lui il saura, il va voir ce pasteur pour qu'il puisse pastoralement l'aider, hein, grâce à la prière ou d'autres choses à aller mieux, et ce pasteur lui dit, vous savez madame, je ne suis pas venu pour rendre bien portants les malades, mais pour rendre un peu malades les gens trop bien portants. Et donc elle est partie en courant, et elle est revenue me voir en pensant que finalement j'étais moins pire que d'autres, et j'ai réussi quand même à l'aider, et finalement en reconnaissance, elle m'a offert cette Bible que j'ai encore là d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Jésus, certes, a guéri des malades, mais en même temps, quand il est question de l'aveugle né en Jean 9, je crois, il dit à la fin, je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, mais que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc oui, il n'avait pas tort, mon collègue. Jésus est là aussi pour déranger, et pour déranger les chrétiens trop bien établis. Et j'avoue que j'aime faire ça, ma prédication, d'ailleurs, est un peu de cet ordre-là, et j'aime provoquer, déranger, mais ça ne me dérange pas, parce que je pense que si beaucoup de nos contemporains ne vont pas à l'église, c'est pas parce qu'ils ont peur d'être dérangés par ce qu'ils vont entendre, c'est parce qu'ils s'y ennuient, voilà, et que beaucoup de gens ne vont pas au temple parce qu'ils s'y ennuient, parce qu'on s'endort, ça c'est le danger, et donc une prédication qui réveille, eh bien je pense que ça fait du bien, parce que oui, la foi c'est pas s'asseoir sur un tas de certitudes sur lequel dont on se contenterait comme le coq qui chante sur son fumier, mais c'est un, vous l'avez dit cher ami, c'est un chemin permanent qui suppose un perpétuel déséquilibre. Et d'ailleurs même dans l'Ancien Testament, vous savez, le peuple en marche dans le désert chemine, et là au milieu de lui l'arche d'alliance, quand le peuple a faim, il est nourri par la manne qui est donné tombé du ciel. Et un jour, je faisais l'école biblique, les enfants me disent, mais pourquoi ça s'appelle de la manne? Alors comme moi j'ai fait de l'hébreu, puisque j'ai étudié, bien que je n'ai pas la robe qui le prouve, manne c'est de l'hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Ben, ils ne savaient pas ce que c'était, ils disent qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, ben, ils ont appelé ça du qu'est-ce que c'est. Manhu en hébreu, ça veut dire c'est quoi ça? Comme vasistas, c'est qu'est-ce qui se passe là-dedans, voilà. Et donc, la manne c'est un qu'est-ce que c'est? Et un commentateur juif disait, ça c'est merveilleux. Voilà un Dieu qui nourrit son peuple dans sa marche prophétique, et il le nourrit par des questions, voilà, par du qu'est-ce que c'est. Et je pense que c'est ça, donc, voilà cette église qui est là aussi pour nous nourrir par des questions, donc pour nous réveiller par ces questions. Pourtant, je vous le promettais, et c'est le moment ou jamais, puisque, effectivement, j'ai choisi exprès pour la deuxième partie parce que normalement au bout de 10 minutes vous commencez à vous endormir, donc maintenant je vais plaider pour le fait que la religion elle est faite pour endormir, ce qui semble indéfendable, mais pourtant c'est important et peut-être encore plus que tout ce que j'ai dit jusque-là que vous saviez déjà, parce que dans la religion il y a, je crois, une notion de confort, et il est essentiel aussi, même pour pouvoir agir, de se stabiliser, de pouvoir reprendre des forces. Parce que encore quand j'étais jeune pasteur, je me disais dans la prédication, il faut aussi parfois secouer un peu les gens, il faut aussi les remettre en cause. Et là, je me dis, mais non, c'est bon. Les remises en cause, je n'ai pas besoin du pasteur pour me bouger. Sans arrêt, la vie me remet en cause. Sans arrêt, les autres me déstabilisent. Sans arrêt, mon existence même me pose problème. Et donc, je n'ai pas besoin qu'on en rajoute, si vous voulez, pour me dire, vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'êtes pas bon, attention, tremblez, pécheur. Je passe mon temps à être déstabilisé. Et si je vais à l'église, c'est que j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Voilà. Et j'ai besoin que ce soit un moment qui m'apaise, en quelque sorte. Et j'ai été étonné, d'ailleurs, dans votre liturgie, monsieur le Président, plusieurs fois, vous avez dit, dans les paroles de Wagner, que, justement, on avait besoin de cette église qui nous apaise, qui nous tranquillise. Vous avez utilisé ces mots, je ne sais plus lesquels exactement, mais c'était à peu près ça. J'ai besoin d'une église qui justement nous repose. Et on en a besoin. Oui, la vie est souvent difficile et on a besoin de confort, de consolation, de tranquillité, je pense. Et on le trouve même dans le Cantique des Cantiques. Alors, il y a 115 versets dans le Cantique des Cantiques. Je vous en commente un seul. Les autres sont dans mon livre. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour tant qu'il plaît. Donc voilà, arrêtez de me déranger. Je suis dans l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément m'embêter? Laissez-moi dans le bonheur, dans la douceur de cet amour de Dieu. Et le Salomon continue dans le Cantique des Cantiques, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Bien, j'ai besoin de ça aussi, de la part de Dieu, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. J'ai pas besoin qu'on me donne toujours des coups de pied, des coups de poing, des aiguillons, des machins, des trucs pour me faire avancer, des coups de bâton. J'ai besoin simplement qu'on m'aide, qu'on me conforte. Donc oui, j'ai besoin de confort, j'ai besoin d'être rassuré, conforté. Et la foi est un aiguillon dérangeant pour agir, d'accord, mais j'ai aussi besoin de dormir parfois, oui. Et ce repos, on le trouve d'ailleurs dans de très nombreux passages, même dans les psaumes. Bon, je vous ai tout à l'heure culpabilisé en vous disant « vous n'avez pas lu les quatre évangiles ». Bon, vous n'avez pas lu non plus les 150 psaumes, donc je continue. Mais vous en avez au moins lu un, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et il dit « il me fait reposer dans de verts pâturages ». Il ne me dit pas « il m'envoie les chiens aux fesses pour que je cours ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, j'en ai besoin. Ou avant dans le psaume 4 où le psalmiste dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix car toi seul Seigneur tu me fais habiter en sécurité ». Mais j'ai besoin de ça aussi, voyez. Et donc le sommeil par ailleurs n'est pas un temps perdu, le sommeil c'est pas si mauvais que ça, c'est aussi un temps pour réfléchir, c'est aussi un temps pour assimiler, pour approfondir, pour s'enraciner. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a de nombreux passages essentiels où les acteurs de la Bible, Dieu leur parle dans des songes. Bon, aujourd'hui, on ne dit plus ça. C'était la mode à l'époque. Dieu parle dans un songe à Jacob, à Bethel ou à Joseph quand il choisit de prendre Marie avec lui et d'adopter Jésus. Et dans des songes. Donc, Dieu parle dans des songes. Mais pour rêver, il faut dormir, mes enfants. Voilà, si vous dormez jamais, Dieu vous parlera jamais. Voilà. Et donc, il faut de temps en temps se laisser se rendre passif, ou plutôt pour être capable d'accueillir. Parce qu'il y en a un peu assez de cette vision activiste de la religion, où il faut faire, pratiquement, il va falloir faire les choses à la place de Dieu, quoi, si vous voulez. Mais en fait, beaucoup de grandes parts de la religion consiste à recevoir. La grâce, ça se reçoit. Ce n'est pas vous qui allez faire la grâce de Dieu. Elle se reçoit, elle s'accueille. Et pour l'accueillir, il faut être tranquille. Et il faut laisser venir Dieu venir à nous. Il faut lui faire confiance et peut-être même s'abandonner à lui. Et arrêter de vouloir tout diriger. Arrêter de vouloir tout décider. Ou arrêter de croire que c'est vous qui auriez toutes les rênes de votre vie. Arrêter de penser que ce serait vous qui devriez même faire votre propre salut. Réveillez-vous, sauvez-vous, faites-le bien. Non. Le salut se reçoit. Il s'accueille. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc, oui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour agir, bien sûr, mais il y a aussi un temps pour ne rien faire. C'est le temps de la contemplation, si vous voulez. Comme Marie, vous savez, Marthe et Marie, Marthe qui s'agite, qui fait des choses. Alors elle est réveillée, elle est en pleine forme, hein, Marthe. Elle fait la vaisselle, la cuisine, le machin. Marie, elle est assise au pied de Jésus, elle ne fait rien. Et Jésus lui dit, tu vois, toi tu t'agites pour beaucoup de choses, très bien. Mais elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Donc oui, c'est en fait la contemplation qui s'oppose à l'activisme. Et parfois, il peut être bon de choisir d'agir moins pour agir mieux. Et pour agir mieux, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut se poser. Et peut-être même décider de faire moins. J'ai un passage pour ça dans l'Évangile. Quand Jésus dit « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. » Oui, il vaut mieux agir moins que de prétendre faire des tas de choses de travers, tout simplement. Et même, tenez, bon, je ne sais pas pourquoi je tourne autour du pot, mais c'est un des commandements centraux de toute la religion juive, le sabbat. Jésus lui-même, le sept jours, ne fait rien. Qu'est-ce qu'il a fait le septième jour? Ben, il a dormi, probablement. Enfin, je ne sais pas, moi, si on ne fait rien. En tout cas, il n'a pas agi. Et c'est un commandement essentiel. Tu travailleras tout le temps, tous les jours, sauf un, où tu ne feras rien, ni toi, ni ton âne, ni ta servante, ni l'étranger sous ton toit. Le repos a une valeur spirituelle et nous avons droit au repos, mais ce n'est pas un droit par faiblesse. Nous devons même choisir de vouloir nous reposer et de pouvoir dormir. C'est ce que dit aussi le psaume, encore, finalement j'aime beaucoup les psaumes. En vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard, en vain mangez-vous du pain d'affliction. On peut toujours vous agiter comme vous voulez. Dieu en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Alors voyez-vous, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir à choisir pour l'un contre l'autre. La vie spirituelle est une respiration. Les vieux théologiens du Moyen-Âge parlaient de la respiration mystique. Il y a un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Si la religion n'était que réveil ou que endormissement, elle serait mauvaise. La bonne religion, c'est celle du juste temps. C'est-à-dire quand chacun des temps permet à l'autre de se féconder. Et ça, c'est une notion très à la mode chez les théologiens contemporains, c'est ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le bon moment. Il y a un moment pour agir et un moment pour se taire. Bon, toute l'histoire de l'Ecclésiaste que vous connaissez par cœur, hein, il y a un temps pour tout, il y a un temps juste, un temps opportun, et heureux celui qui agit à juste temps, celui qui dort quand il faut dormir, et celui qui se réveille quand il est temps de se réveiller. D'ailleurs, Jésus lui-même dort dans la barque. Ses disciples lui font le reproche, il dit « Mais attendez, c'est bon, fichez-moi la paix. » Et donc il y a un juste temps et la religion peut nous aider, j'espère, à être réveillés quand il faut, à mieux dormir quand on en a besoin, mais en pensant que de toute façon, on est toujours sous la grâce et donc il n'y a pas de jugement, si vous voulez, qui ferait qu'on risquerait de rater. J'ai manqué, j'ai dormi quand il ne fallait pas, quelle horreur, ça y est, je suis condamné. Non, on est sous la grâce. Et donc, il n'y a pas de condamnation ni de peur de se tromper. D'ailleurs, je crois que même depuis le début, j'ai essayé de me rendre compte le piège, où se situait le piège que vous me posiez dans la question telle que vous la posiez. Mais dès le début, je crois que je me suis fait avoir parce que le piège, il était encore en amont. Quand vous dites « à quoi sert la religion ?», j'aurais dû répondre dès le départ « à rien ». À rien, en tout cas à rien de matériel ou rien de pratique. Parce que, justement, nous ne sommes pas dans un jugement qui consisterait à dire « Est-ce que tu as fait plus de bien que de mal ? Est-ce que la religion a servi à ceci ? Et à quoi tu sers, toi ?» C'est ça une formule des jeunes. Ça, c'est horrible. Mes enfants disent ça d'un ami qui n'aime pas. Il sert à rien. C'est affreux, ça. Mais en fait, on n'est pas dans ce jugement-là. Et le propre du religieux, c'est ça qui m'enthousiasme dans le religieux, c'est qu'il ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'utile, enfin matériellement. Ce qu'on m'a dit une fois dans un dîner mondain où j'étais, les gens, qu'est-ce que vous faites comme métier, je fais ça, toi tu es pasteur, et un autre m'a dit, ah oui, toi tu es un improductif. Oui, je suis un improductif, c'est merveilleux. Je ne sers à rien dans la société, je ne vous apporterai aucune richesse, même pire, je vous en déleste au moment de la quête. Et vous donnez pourquoi? Et ce que je vous dis, si vous donnez, vous gagnerez. Non, donnez à la quête beaucoup, vous ne gagnerez rien. Et c'est ça la grandeur de ce don, parce que le propre du don, c'est qu'il ne sert à rien. Si vous donnez pour obtenir, c'est plus un don, c'est un achat. Le propre du don, c'est qu'il ne sert à rien. Et j'aime le religieux parce que l'essence même du religieux, c'est d'être inutile, matériellement bien sûr. Quand on se promène dans les campagnes, on voit sur une maison une niche avec une, je sais pas quoi, une croix ou une Vierge Marie, même si vous voulez ce que vous voulez. Pourquoi ? Pour rien. Ça, c'est beau. C'est ça, le religieux. Si vous mettez quelque chose d'utile, c'est plus du religieux. Ça sert à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas que le propre du religieux. On dit Dieu, les philosophes antiques disaient ça, Dieu, c'est le bien, le bon et le beau. À quoi sert le beau ? À rien. À quoi sert l'art ? À rien. Si un objet sert à quelque chose, c'est plus de l'art. Un objet d'art ne doit servir à rien. Sinon, c'est plus de l'art. Et pourquoi ça sert à rien ? Bien parce que est-ce qu'une belle voiture roule mieux qu'une moche ? Non. Une moche voiture roule aussi bien qu'une belle voiture. Est-ce qu'un repas, bon repas, nourrit mieux qu'un mauvais ? Ben non. Pas besoin de manger du caviar pour être bien nourri. Vous pouvez manger des tas de choses qui n'ont aucun goût. Et est-ce que ça sert même à quelque chose d'être honnête ? Ça, c'était une question quand j'étais enfant. Je dis à mon père, j'ai calculé, le prix du billet de métro, c'est tant, je suis contrôlé tous les tant de fois, donc comme le prix de l'amende, c'est que 20 fois le prix du billet que je suis contrôlé toutes les 50 fois, j'ai intérêt à ne pas payer. Il m'a dit, mais mon enfant, on n'est pas honnête par intérêt. On est honnête par conviction. Donc oui, ça ne sert à rien d'être honnête. Et dans cette société, c'est certainement beaucoup plus utile et productif d'être cynique, d'être égoïste, de n'avoir aucune moralité, sans foi ni loi. Vous réussirez beaucoup mieux dans les affaires. Et donc l'honnêteté ne sert à rien. Et je pense que, effectivement, le propre du religieux, c'est que c'est gratuit. Sinon, ça devient soit du calcul, soit de la superstition. Parce qu'on pense qu'on va y gagner quelque chose. Et ceux qui viennent me voir parfois en me disant « Monsieur le pasteur, aidez-moi, je voudrais avoir la foi ou croire plus parce que je pense que ça m'aiderait », eh bien, ça ne marche jamais. Si la foi, on ne l'a pas par intérêt, on ne l'a pas pour que ça nous serve à quelque chose, on y va, mais parce que, c'est comme l'amour, c'est ce que dit, vous savez, Montaigne à la Boétie, c'est si beau. Pourquoi tu aimes un tel ? Parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il te rend service ? Non. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, pour rien. Je l'aime parce que je l'aime. Et la religion, la foi, c'est de l'amour. Et l'amour ne sert à rien. L'amour, c'est de la gratuité pure. L'amour, c'est du don. Et si je n'ai pas la foi, mais j'aime parce que je suis aimé, parce que j'y crois. Et est-ce que cela sert à quelque chose, même à Dieu ? À quoi ça lui sert à Dieu, tiens, de m'aimer ? Bah rien, sinon c'est plus de l'amour, Dieu m'aime pour rien, et je ne lui sers sans doute pas à grand chose, mais il m'aime, et ça me bouleverse. Et donc la religion n'est pas là pour servir quoi que ce soit, elle est simplement pour dire l'amour, pour dire la grâce, et pour dire que si tout dans ce monde est calculé, si tout, à chaque fois on se pose la question, à quoi ça sert, et si je fais ça, qu'est-ce que ça me rapporte, et tel ami, à quoi il me sert, et lui, il sert à quoi, eh bien, arrêtez cette idée de servir à ceci ou à cela. Tout dans ce monde a des conséquences, tout se paye, tout doit se calculer, tout, chaque fois on me rapporte que j'ai fait le mal, que ça, c'est pas bien, que j'aurais pas dû, que j'aurais dû faire ci, que j'aurais pu faire ça, et qu'il y ait au moins un endroit on me dise, mais il n'y a plus d'enjeu. Simplement, vous êtes aimé, et la foi, c'est la liberté d'être aimé, la liberté de ne pas être jugé, de pouvoir donner sans attendre, et même la liberté de pouvoir se dire, peut-être que je ne sers à rien, mais Dieu m'aime. Voilà. Eh bien, moi, ça me suffit. Recevoir sans calcul, d'être simplement dans la joie d'être aimé, d'être accepté, d'être pardonné, et de pouvoir ainsi vivre libre et joyeux, reconnaissant, et d'avoir à mon tour la joie d'aimer et de distribuer gratuitement. On ne dit pas amen à la fin d'une conférence. C'est fini.